RMC Intégral Tour, Christophe Cessieux.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en ce dimanche, 9e étape du Tour de France. Aujourd'hui, Van Plumelec, c'est le deuxième chrono de ce Tour de France, un chrono par équipe qui débutera dans une petite heure maintenant à 15h avec le départ de la première équipe et qui s'achèvera vers 17h30 avant évidemment le grand chamboulement puisque tout le monde va quitter la Bretagne ce soir direction Pau. Un petit transfert, 700 km un peu plus même pour les coureurs, ça ne prendra pas beaucoup de temps puisqu'ils partiront en avion, mais nous allons faire un peu de voiture cette nuit pour essayer de vous tenir au courant de l'évolution du Tour de France demain et après-demain. Demain c'est le jour de repos, mais il va évidemment se passer beaucoup de choses. On va revenir sur ce Tour de France dans quelques instants, même si l'étape n'est pas encore partie puisque toute l'équipe est déjà en place. Et puis d'autres infos, d'autres sports dans l'intégral Tour cet après-midi. Le tennis évidemment avec la finale de Wimbledon qui débutera là aussi dans une heure entre Novak Djokovic et Roger Federer. On s'intéressera également à l'athlétisme avec la suite des championnats de France et Renaud Lavillenie qui reste sur deux échecs et qui va tenter de se rattraper cet après-midi. On suivra ça avec François-Xavier de Châteaufort. Et puis la bonne nouvelle de la mi-journée, c'est la qualification de l'équipe de France de rugby à 7 pour les Jeux de Rio en 2016. Vous savez que le rugby fera son apparition dans le programme olympique l'année prochaine, et bien avec une équipe de France puisqu'elle vient de décrocher son billet. On en parlera dans un instant avec Laurent Depré. Voilà donc pour le programme de cet après-midi. L'étape, je vous le disais, débute dans une heure, mais toute l'équipe est évidemment déjà en place à commencer par notre druide, Cyril Guimard. Salut Cyril.
Oui, salut Christophe, salut à tous. Voilà. Ça y est, je suis en poste pour ce contre-la-montre par équipe que nous allons faire ensemble.
Exactement, Cyril qui est requinqué par son passage à la maison. Il a passé deux jours en Bretagne avec Madame Guimard et ça, tout de suite, ça redonne des forces. Frédéric Adam, lui, n'a pas vu son épouse, il a vu sa cousine. Oui. C'est déjà pas mal qu'on salue d'ailleurs.
Oui, Laure.
On fait un petit bisou à Laure qui est là tout à l'heure. Bretonne, passionnée de vélo, passionnée de foot, passionnée de sport en général. Ça va, Fred?
Très très bien, ça fait du bien aussi.
Ah hein. Bah oui, oui,
c'est
oui.
Pas le même niveau de satisfaction, mais c'est très bien aussi de voir la famille.
Est-ce qu'elle t'a fait le même petit les mêmes petits plats que Madame Guimard a fait à Monsieur Guimard?
On n'arrive pas à la cheville de Fanfan.
Ah non, Fanfan
Guimard.
Fanfan number one, c'est évident. Très bien, Fred, un petit mot sur cette étape donc, qui s'élancera tout à l'heure à 15h. C'est un contre-la-montre par équipe. C'est le dernier moment du chrono hein, dans ce Tour de France. Derrière, on range des chronos et on passe à autre chose.
Hein. Oui, il y en a eu que deux, hein. Un cours de 13 km 800 à Utrecht en étape inaugurale de ce Tour de France et les 28 km aujourd'hui sont particulièrement vallonnés, mais surtout par équipe. C'est un exercice ô combien télégénique, très spectaculaire, que le Tour de France avait laissé pendant 3 années, laissé de côté avant d'y revenir voilà 2 ans. C'est toujours un exercice apprécié par le public, par les téléspectateurs et redouté par les coureurs, parce qu'il faut, au-delà de la question de la performance, il faut garder une homogénéité, une vigilance absolue. 9 coureurs pour les équipes encore au complet qui s'élancent et prennent des relais au centimètre, au millimètre près parfois. Il y a des secondes à perdre, des secondes à prendre bien sûr, mais des secondes à perdre et peut-être des éléments à perdre. Chaque année sur un contre-la-montre par équipe, on voit des chutes et on peut vraiment faire le tour sur un contre-la-montre par équipe, comme tous les jours sur le Tour d'ailleurs.
Très bien Fred, tu nous parleras plus en détail de tout cela tout à l'heure. On va quand même...
Oui. Tiens, une petite précision, tu évoquais l'arrivée de la dernière équipe Sky à 17h30, ce sera plus tôt car la formation Sky partira à 16h45, pas à 17h. Il y a eu des informations erronées qui ont circulé. Premier départ à 15h avec les Australiens d'Orica Greenedge. Les Anglais du maillot jaune Christopher Froome s'élanceront eux à 16h45.
Ouais. Donc une arrivée vers 17h15, 17h20. Hein.
C'est ça.
Très bien. Merci Fred. On parlera de tout ça plus en détail tout à l'heure. On va vous laisser faire un petit peu la sieste. On va s'intéresser à d'autres sports. On va juste quand même prendre la température sur la ligne de départ avec Georges Quirino, qui est déjà bien en place évidemment, pour nous raconter ce qui va se passer. Salut Georges.
Salut Christophe, je suis avec un invité avec moi puisque je suis devant le bus Astana avec son directeur sportif Giuseppe Martinelli qui est avec moi. Bonjour Giuseppe, déjà pour avoir des nouvelles de Vincenzo Nibali qui a perdu un petit peu de temps hier à Mur de Bretagne. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous en savez un peu plus et comment va-t-il aujourd'hui?
Il savait pas que gli passé. Je pense que c'est un jour difficile pour lui après la chute, après toutes les choses qu'il a vues la première semaine. Je pense qu'aujourd'hui, il a besoin d'une grande équipe pour faire la contre le monde. J'espère que cette soirée, c'est plus facile pour nous.
Il était inquiet hier? Vous étiez inquiet?
Non, il savait pas parce qu'il a passé ce moment. Je pense qu'il a vu La chute, il a compliqué un peu la vie de Vincenzo Semomane. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'aura mieux.
Il faut faire un chrono parfait aujourd'hui. Vous ne pouvez plus perdre de temps sur Christopher Froome.
Ah, ils ne peuvent pas perdre de temps, mais je pense que Christopher Froome et Sky, il y a une équipe très très forte ce moment. Je pense qu'il a besoin de limiter aujourd'hui et mardi, dans les montagnes, il peut attaquer.
Mardi dans les Pyrénées. Merci beaucoup Giuseppe Martinelli, directeur sportif de l'équipe Astana. Équipe Astana qui va s'élancer, Christophe, à 15h55. Pour l'instant, on a juste sorti les vélos. Là, on est assez tranquille. Pour te dire, j'ai interrompu Giuseppe Martinelli qui regardait le Grand Prix de MotoGP
qui suit les exploits
de Valentino Rossi. Voilà. Les Italiens d'Astana suivent les exploits de Valentino Rossi pour l'instant en MotoGP.
Merci Georges, à tout à l'heure évidemment avec d'autres invités sur la ligne de départ à Vannes de cette 9e étape du Tour de France, donc qui s'élancera tout à l'heure à 15h. Allez, avant le départ de cette étape du Tour de France, on va s'intéresser à d'autres sports et notamment au sport olympique. Et oui, le rugby qui, vous le savez, deviendra sport olympique l'année prochaine à Rio, avec une bonne nouvelle puisque l'équipe de France vient de se qualifier pour les Jeux.
RMC France Olympique.
Voilà, Laurent Depré n'a jamais disputé les Jeux Olympiques.
Jamais.
Jamais. Ce sera peut-être donc une première l'année prochaine. Salut Lolo.
Salut Christophe.
Avec deux équipes de France qualifiées pour Rio, ça c'est pas une, c'est deux, puisque l'équipe de France féminine a déjà obtenu son billet pour Rio il y a quelques semaines, Laurent. Et la bonne nouvelle, c'est que les garçons ont réussi la même performance tout à l'heure à Exeter en Angleterre.
Ouais, et puis alors sans coup férir, avec beaucoup d'autorité, il fallait pour ça remporter, on va dire, le circuit européen de qualification, être terminé premier. Et bien voilà, il y a eu deux tournois de jouer, deux fois la première place. Et là, le contrat était simple. À midi et demi, heure française, contre le Pays de Galles, il fallait gagner pour poinçonner le billet. Chose faite avec brio, 31-7. Et voilà, le rêve olympique est devenu réalité. On a un invité, Christophe, pour ça.
Exactement. Stéphane Parez, ailier de l'équipe de France de rugby à 7, est avec nous en direct d'Exeter. Bonjour Stéphane.
Bonjour Laurent.
Bonjour, tu es aussi avec Christophe qui est en direct de l'étape en Bretagne, il n'y a pas de problème. Mais là, on va préciser que tu es à Exeter, c'est au sud-ouest des Cornouailles et complètement au sud-ouest de Londres. Et allez, j'imagine que la fête, c'est pour bientôt, mais ça a commencé. Il doit y avoir des étoiles plein les yeux, Stéphane.
Ah oui, c'est clair. Bon, après, alors je vous parle, c'est quand même difficile de se rendre compte de l'ampleur du travail qu'on vient d'accomplir. Mais je pense que le temps va nous donner raison et puis ça va être magnifique.
Ouais. Alors Stéphane, il y a quelques mois, on était un peu inquiets parce que les résultats de l'équipe de France de rugby à 7 étaient pas vraiment performants. Et puis là, d'un seul coup, vous devenez champion d'Europe, vous vous qualifiez, vous avez répondu à tous vos détracteurs et vous êtes qualifié pour Rio. Pour un joueur de rugby, ça représente quoi les Jeux Olympiques ? C'est nouveau pour vous tout ça, hein ?
Bien sûr, c'est nouveau vu que ce sera la première fois que ce sera dans aux Jeux Olympiques. C'est quelque chose que tout sportif, que ce soit du rugby, du foot, du tennis, même dans les sports courts, c'est quelque chose d'incroyable et qui reste un rêve malgré tout à accomplir. Et bon là c'est quelque chose qui devient réalité, donc c'est magnifique.
Ouais, Stéphane, une question, excuse-moi Christophe. À 15 aussi, t'es pas manchot, il y a quand même un grand chelem des moins de 20 ans l'an passé, tu peux jouer, t'es polyvalent, demi de mêlée, centre, ailier. Ça a été dur, c'était un pari risqué de jouer le 7 olympique ou pas? Surtout quand on a 21 ans le 1er août seulement, c'est très jeune.
Ouais, c'est vrai que c'est un risque parce que voilà, l'équipe de France de rugby à 7 n'avait pas forcément de très très jeunes joueurs. Mais on fait partie avec Jonathan Logel et d'autres qui viennent de rentrer dans le groupe, de se lancer dans cette aventure des Jeux Olympiques. Mais c'est vrai que c'est au début c'était un pari, mais pour l'instant il s'avère positif et gagnant. Donc je pense qu'on est dans une bonne voie et faut persévérer par de bons résultats.
Ouais. Stéphane, c'est facile de passer comme ça du 7 au 15. Comment tu organises ta saison? Est-ce que c'est évident tout ça? Parce que c'est quand même si c'est le même sport, c'est pas la même façon de le jouer quand même. Hein.
Ah oui, tout à fait. Forcément, il y a beaucoup plus de préparation physique vu que au rugby à 7, on est depuis l'année dernière, on était à 9 tournois par an. C'est-à-dire que on jouait 9 fois par week-end. On jouait 9 week-ends par an, en fait. Et chose qu'on n'a pas l'habitude quand on joue au rugby à 15, où on joue tous les week-ends de toute l'année. Donc forcément, ça amène un rythme beaucoup plus différent. Alors que en plus, l'année prochaine, il y aura une étape en plus. Donc à Paris, à Jean-Bouin, le week-end du 14 mai. Et voilà, donc ce sera vraiment très très important pour nous de bien se préparer, surtout que ce sera juste avant les Jeux Olympiques. Et c'est vrai que voilà, il y a beaucoup plus axé sur la préparation physique.
Ouais. Comment tu t'organises? Est-ce que tu fais partie d'un club? Est-ce que tu disputes un championnat de club? Je crois que tu étais au Racing il y a peu de temps. Je sais pas si tu es encore au Racing. Comment ça se passe? Le Racing te délègue en équipe de France, te laisse carte blanche pour jouer dans les équipes de France des moins de 20 à 15 et en équipe de France de rugby à 7?
Alors pas du tout. Moi j'étais un an au Racing. En même temps, j'étais au Pôle France. Alors, je sais pas si vous savez comment ça se passe au Pôle France, mais le Pôle France, je suis à l'internat à Marcoussis avec 30 joueurs français, jeunes joueurs français, et on s'entraîne du lundi au jeudi. Et du coup, on est libéré le week-end pour retourner dans nos clubs. Sauf que avec l'équipe de France. On s'était dit que l'équipe de France à 7 pouvait me libérer pour les sélections de moins de 20 ans, mais aujourd'hui il y a personne qui est avec son club et l'équipe de France à 7.
En fait,
donc l'équipe de France à 7, c'est un peu comme notre club, mais c'est un peu le même rôle.
Ouais, Christophe, en fait, c'est une crise de croissance qu'a subi, on va dire, l'équipe de France de rugby à 7 avec son hiver difficile, voire pourri, et puis finalement, ça s'est mis en ordre de marche. Il y a maintenant que des contrats professionnels payés par la fédération, que ce soit Virimi Vakatava ou les anciens comme Terry Bourahoua et désormais les jeunes comme Stéphane Parez. Une question, Stéphane, justement, quand on parle de ces anciens, beaucoup de respect, j'imagine, et même de joie de qualifier l'équipe de France, ne serait-ce que pour un Terry Bourahoua.
Ah oui, c'est sûr. Enfin, quand on parle des anciens, et on parle pas que de Terry Bourahoua et ceux qui sont toujours dans l'équipe, il y a ceux aussi qui ont participé dès le début et qui ont tout consacré pour ce projet olympique, comme l'ancien capitaine Vincent Guignot, Jean-Baptiste Doblet, et Renaud Delmas ou bien d'autres. Et c'est vrai que c'est quelque chose où forcément, ça a peut-être plus de signification pour eux parce qu'ils étaient là depuis 4 ans, voire 5 ans, à lutter pour toucher ce rêve. Et c'est vrai que on peut pas rester insensible à ça.
Stéphane, une dernière question avant de te laisser aller faire la fête avec tes copains, évidemment, parce que ce soir, je pense que ça va être une belle fiesta.
Finir le tournoi.
Ah oui, il y a quand même le tournoi à finir. Effectivement, la troisième mi-temps ce sera après. Les ambitions de cette équipe de France. Maintenant que vous avez décroché le Graal, c'est-à-dire décroché cette qualification, qu'est-ce que vous pouvez espérer à Rio? Est-ce que une médaille est envisageable ou alors ce sera difficile? Hein, on rappelle qu'il y a quand même toutes les grandes nations du 15 plus d'autres nations fortes comme les Fidji qui sont au sommet de l'échelon en rugby à 7. Qu'est-ce que vous pouvez espérer à Rio dans un an?
Mais écoutez, on va pas à Rio pour flâner et aller voir le Corcovado. C'est pas ça notre objectif. C'est vraiment de décrocher une médaille parce que les Jeux Olympiques, c'est vrai, c'est beau d'y être, mais c'est encore plus beau de revenir au pays avec une médaille. Et forcément, on est tous compétitifs et on va tout donner. Donc l'année qui arrive, elle sera axée sur la construction de l'équipe et vraiment de pouvoir construire quelque chose de solide et pouvoir ramener une médaille à la maison.
Voilà, très Christophe, bien. T'entends?
Merci. Hein, ah ouais, non, mais je suis ravi de voir le rugby déjà intégrer le programme olympique et l'an prochain à Rio. On va pouvoir voir des matchs de rugby aux Jeux Olympiques. Ça, pour une bonne nouvelle, c'est une très très bonne nouvelle. On est ravi, évidemment, RMC qui est la radio du rugby et la radio des Jeux Olympiques. Et donc, on sera à bloc derrière vous. On compte sur vous, les gars, hein, maintenant.
Chapeau, hein. Stéphane. Merci, à vite.
Merci beaucoup.
Merci Stéphane, merci. Et puis les filles aussi, hein, faut pas l'oublier, hein, Laurent, je le disais tout à l'heure, qui ont déjà décroché leur billet pour Rio. Ça va être une sacrée fête l'année prochaine à Rio pour le rugby français.
Sachant que ça durera 4 jours, les 2 premiers jours du tournoi olympique ce seront ces demoiselles et les 2 derniers jours ce seront ces messieurs.
Exactement, voilà une bonne nouvelle. Merci Laurent. Merci Laurent cette bonne nouvelle. Donc l'équipe de France de rugby à 7 qualifiée pour les Jeux de Rio. On va s'intéresser maintenant à la moto avec le Grand Prix d'Allemagne, MotoGP, qui a débuté il y a une petite vingtaine de minutes. On l'entendait tout à l'heure au micro de Georges Quirino. Les Italiens et notamment le directeur sportif de Nibali sont à bloc derrière Valentino Rossi en Allemagne. Alors il en est où le dottore, mon cher Benoît Bouton? Salut Benoît.
Salut Christophe, salut à tous. Et ben ils doivent serrer les dents, hein, tous les Italiens, puisque Valentino Rossi pour l'instant est malmené par Marc Marquez, l'Espagnol, qui est en tête de ce Grand Prix à 15 tours de l'arrivée, juste devant, hein. Valentino Rossi, Dani Pedrosa est troisième, il complète le podium. Il y a des antécédents, tu te rappelles, il y a 15 jours à Assen, un mini accrochage entre Rossi et Marquez, Rossi qui a coupé le dernier virage pour remporter le Grand Prix juste devant Marc Marquez. On a beaucoup parlé de cette histoire. Et bien ils règlent leur compte, les deux motards, sur la piste, justement 15 tours à parcourir, Marquez en tête devant Valentino Rossi et Dani Pedrosa pour l'instant.
Merci Benoît, tout à l'heure tu nous tiens évidemment au courant de l'évolution de ce Grand Prix et de savoir qui va le remporter. 14h21, vous êtes sur RMC, l'Intégral Tour. Rassurez-vous tous les passionnés de vélo, le vélo ce sera tout à l'heure à partir de 15h, puisque l'étape, cette 9e étape entre Vannes et Plumelec, débutera à 15h avec le départ de la première équipe Orica Greenedge, qui va s'élancer avec malheureusement pas toute son équipe, puisque certains ont dû abandonner le Tour de France après les nombreuses chutes qui ont émaillé la première semaine de ce Tour de France. L'Intégral Tour revient dans un instant. On va parler de tennis également avec Eric Salio dans un instant, puisque vous le savez, la finale entre Djoko et Federer débutera dans 40 minutes maintenant. Et puis l'athlétisme avec Félix de Châteaufort pour la suite des championnats de France et la Villainie qui nous doit une revanche. À tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Tour, Christophe Cessieux.
L'Intégral Tour de France jusqu'à 18h, le direct évidemment, vous en avez l'habitude depuis une grosse semaine maintenant que le Tour a débuté. Le Tour qui fera relâche demain à Pau, la dernière étape avant le repos, c'est donc cet après-midi avec la première équipe qui s'élancera dans un peu moins de 40 minutes maintenant, l'équipe Orica Greenedge. On en parlera avec toute la Dream Team dans quelques instants. Avant le départ de cette étape, on a plein d'autres choses à vous dire. On va notamment tout à l'heure partir pour Wimbledon, parce que là aussi un petit moment sympa qui nous attend avec la finale entre Novak Djokovic et Roger Federer qui débutera à 15h. Et puis autre événement du week-end, l'athlétisme et les championnats de France qui se déroulent à Villeneuve-d'Ascq. On va tout de suite retrouver notre expert en matière d'athlétisme, j'ai nommé François-Xavier de Châteaufort. Salut Fix.
Salut Christophe, bonjour à toutes et à tous.
Villeneuve-d'Ascq donc avec un beau moment la finale, oui, du 100 mètres et évidemment notre tout nouveau recordman d'Europe du 100 mètres, ouais, et puis avec lui, face à lui quand même un grand champion, Christophe Lemaitre, qui est le premier blanc à être descendu sous les 10 secondes, c'est ça, hein, je dis pas de bêtises.
Exactement.
Fix. Et le duel a tourné à l'avantage du plus jeune, le tout nouveau recordman d'Europe qui a été une nouvelle fois impressionnant hier.
Ouais, Jimmy Vico qui a servi de locomotive à Christophe Lemaitre hier, une fois n'est pas coutume. C'est Jimmy Vico maintenant, c'est clair et net, le patron du 100 mètres en France. Jimmy Vico qui a remporté ce titre de champion de France en 9 secondes 96 centièmes. C'était 9,92 plutôt, c'était tout simplement, eh bien, il n'y a pas si longtemps, il y a une semaine, le record de France, l'ancien record de France de Christophe Lemaitre. Jimmy Vico qui a confirmé donc ce record d'Europe qu'il avait égalé au Stade de France il y a une semaine de cela. Et Jimmy Vico qui est installé dans le top 5 mondial du 100 mètres. Ce n'est pas rien, hein. Top 5 mondial, ça parle notamment à un peu plus d'un mois des mondiaux. Et justement, cette hiérarchie mondiale, eh bien, écoutez, Jimmy Vico, il nous en parle un peu à sa façon. Il ne se prend pas vraiment la tête avec cette question de hiérarchie mondiale. Pour lui, c'est plus un truc de journaliste.
Pour le moment, je ne me vois pas. Je suis bien où je suis. Je ne pense pas à ma position dans la hiérarchie, quoi, pour le moment. Donc, c'est compliqué, on n'y est pas encore. À Pékin, tout est remis à zéro. Donc, regardez, il y a deux ans, je suis à 95 et pourtant, en demi-finale, c'est lui qui passe, c'est pas moi. Donc, pour le moment, j'y pense pas. Je me concentre sur ce que je fais. Il y a encore deux meetings et après, on pourra voir où j'en suis.
Voilà, Jimmy Vico qui est encore perfectible et c'est ça qui est bien. Il y a encore de la marge, notamment sur sa première partie de course. Hier, le départ était encore pas transcendant, puisqu'il était un peu à armes égales avec Christophe Lemaître sur les 30-40 premiers mètres. Après, eh bien, Jimmy Vico s'est irrémédiablement détaché sur la fin de course. Là, c'était parfait, la deuxième partie du 100 mètres. Donc voilà, il y a encore des choses à travailler avec Guillaume Tanon, son entraîneur. Ouais. Il y a encore un mois pour bosser et pour aller encore plus vite, car pour les mondiaux, pour espérer un truc aux mondiaux,
oui,
il faudra aller un peu plus vite,
Tout petit peu plus vite, mais il y a quand même des monstres devant lui.
Est-ce
qu'il peut progresser? Est-ce qu'il peut viser une médaille? Il faudrait quoi pour viser une médaille? Il faudrait une contre-performance d'un des quatre meilleurs mondiaux, et il y a quand même du beau monde devant, même si on sait pas trop où en est Usain Bolt, mais enfin on sait que dans les grands championnats le fauve est prêt toujours à bondir sur les bons chronos, hein.
Ouais, effectivement, ils sont quatre vraiment à être au top. On attend Baxter Usain Bolt, on l'attend avec impatience pour sa rentrée sur 100 mètres à Londres dans une quinzaine de jours. Mais effectivement, eh bien, Jimmy Vico va devoir s'employer pour espérer quelque chose. Mais secrètement, on l'a un peu titillé hier sur la question. Il vise quelque chose, bien sûr, au Mondo, parce qu'il a déjà disputé une finale au Mondo. C'était en 2011. En 2013, c'était pas passé loin. C'était joué à un centième. Il avait loupé la finale de rien. Là, il vise quelque chose et bien sûr, la médaille, il y pense parce que c'est un compétiteur comme les autres, mais il faudra tourner aux alentours de 9,80. Il faudra qu'il batte son record d'Europe vraisemblablement pour aller chercher cette médaille. Bon voilà quoi, donc c'est possible, c'est jouable, mais on sait jamais.
Fixe un petit mot sur Christophe Lemaître tout de même, deuxième. Donc tu le disais, Vico a servi de locomotive à Christophe Lemaître. 10,07, bon, c'est pas évidemment son record, mais on sent qu'il revient petit à petit. Est-ce que lui aussi peut envisager de se qualifier pour une finale mondiale dans un mois pour les championnats du monde?
Alors sur 100 mètres, il va falloir vraiment encore qu'il progresse un petit peu, hein, le chrono. Il a été blessé encore là pendant une dizaine de jours depuis la Coupe d'Europe par équipe Acheboksary en Russie, donc il revenait un peu dans l'inconnu hier à Villeneuve-d'Ascq. Il a fait une très belle course, enfin un vrai 100 mètres réalisé cette saison, ça fait plaisir. Il fait les minima pour Pékin au passage hier lors de la finale. Il a retrouvé des sensations, c'est ce qu'il nous a dit, il avait le sourire, il a retrouvé des sensations qu'il n'avait pas eues depuis longtemps, qu'on lui avait vu sur le 200 mètres au meeting d'Oslo avant qu'il ne se blesse une semaine après en Russie. Donc c'est plutôt encourageant, on est sur la bonne voie pour Christophe Lemaître, qui va devoir lui aussi travailler d'arrache-pied. Et bon, et bien voilà, on espère que les deux, Christophe Lemaître et Jimmy Vico, et bien iront en finale comme il l'avait fait en 2011 à Daegu, on s'en souvient, avec le faux départ de Bolt. Voilà, c'est jouable pour Christophe Lemaître, mais on sait que Christophe Lemaître, sa course, c'est le 200 mètres et c'est cet après-midi.
Alors, justement, ce 200 mètres entre Vico et Lemaître, comment, déjà, un petit mot sur la relation entre les deux, parce que c'est pas évident comme ça. Lemaître était un peu le patron, il a vu petit à petit Vico commencer à lui gratter les chevilles, puis lui mordre les chevilles à pleines dents. Désormais, il est devant lui. Comment il vit ça et est-ce qu'il peut prendre sa revanche sur le 200 qui aura lieu donc tout à l'heure?
Alors, ils le vivent plutôt bien, leur relation. Il n'y a pas vraiment d'animosité entre les deux. Ce sont vraiment deux athlètes extrêmement gentils, pas à se rentrer dedans, pas à se faire de sales coups dans le dos. Jimmy Vico et Christophe Lemaître se respectent. Ils font partie du collectif relais du 4x100. Donc ça aussi, c'est très important qu'il y ait une bonne entente quand même entre les deux, parce que ce sont les deux têtes d'affiche du relais 4x100. Voilà, donc Christophe Lemaître, forcément, il est piqué au vif parce qu'il a perdu son record du monde de 100 mètres. Mais il s'y attendait depuis quelque temps. Hein. Christophe Lemaître, il n'est pas redescendu sous les 10 secondes sur 100 mètres depuis maintenant 3 saisons, donc ça commence à faire beaucoup, et Jimmy commence à aligner les chronos sur 10 secondes, donc il s'y attendait à ça, c'est pas très très grave. Christophe s'est fait une raison par rapport à ça. Cet après-midi sur 200 mètres, il y a de la revanche dans l'air, c'est clair, parce que bien, c'est la discipline de Christophe. Jimmy lui a beaucoup moins couru de 200 mètres que Christophe dans sa carrière. Guillaume Tanon bien nous le rappelait, et justement je vous propose de l'écouter, Guillaume Tanon, par rapport à ça, parce que c'est vrai que bon, ben, finalement, eh bien, c'est peut paraître bizarre, mais sur le papier au départ, pour l'instant, aujourd'hui, Christophe Lemaître est le favori du 200. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter Guillaume Tanon.
C'est un garçon qui, ici, je rappelle, manque totalement d'expérience sur cette discipline-là. C'est depuis qu'il est cadet, il a dû en courir une vingtaine, pas plus. Donc c'est, si on compare à Christophe, c'est incomparable. C'est incomparable. Christophe, c'est un coureur de 200 qui nous a montré, il a été champion du monde, il a eu une médaille mondiale chez les seniors sur cette distance-là. Il a une vraie expérience sur la distance. Jimmy ne l'a pas. Et donc, il doit apprendre, il doit acquérir de l'expérience. Et bien, on va compter sur Christophe, parce qu'aujourd'hui, Jimmy l'a embarqué. On espère que Christophe l'embarquera sur des bons chronos.
Ouais, les bons chronos, car il y a les minima à les chercher pour Jimmy sur 200. Christophe, lui, les a déjà fait, les minima, il les avait fait lors du meeting d'Oslo. Voilà. Après, la seule inconnue aujourd'hui, c'est les conditions météo. Le vent s'est bien levé aujourd'hui. Le ciel est menaçant. On espère qu'il ne pleuvra pas, mais en tout cas, le vent sera une donnée importante pour ce 200 mètres que tout le monde attend, qui sera d'ailleurs la clôture de ces championnats de France à 18h50. Un vent qui sera également très important et peut-être perturbant pour le saut à la perche, Christophe.
Ah oui, le saut à la perche, avec évidemment Renaud Lavillenie, notre serial winner, le perchiste, mais serial winner qui connaît une période un peu plus délicate depuis quelques temps, puisqu'il reste sur deux échecs. Et ça, on sait que les échecs, il aime pas vraiment, Renaud Lavillenie. Avec son orgueil de champion. Alors, dans quel état se trouve-t-il? Est-ce qu'il a envie de revanche? Est-ce qu'il a les moyens déjà d'une revanche cet après-midi au championnat de France? Quand on domine la planète perche depuis tant d'années, on se dit qu'en France, ça devrait le faire quand même.
Oui, bon, en France, il y a intérêt que ça le fasse, hein, parce que si jamais Renaud n'est pas champion de France tout à l'heure, là, ça va commencer à devenir très, très inquiétant et surtout très embêtant pour lui, personnellement, psychologiquement. La revanche, ben, en fait, on peut pas vraiment parler de revanche aujourd'hui, parce que ce sont les championnats de France. Là, Paris-Lausanne, il s'était confronté à ce qui se fait de mieux quasiment sur l'échiquier mondial au niveau de la perche. Là, il ne les retrouvera pas, les Holzepel, l'allemand, ou Philippidis, le grec. Voilà, ce sont les championnats de France. Donc là, il faut qu'il retrouve un concours où il puisse se faire plaisir avec des sensations, où il puisse retrouver les hauteurs auxquelles il nous a habitués en début de saison avec, on s'en rappelle, les 6m05 à Eugene. Le problème, comme je le disais tout à l'heure, c'est ce vent, ce satané vent qui l'avait déjà perturbé à Paris. À Lausanne, il avait eu le vent de face et il avait été frustré, il en avait même pleuré à la fin du concours, ce qui est très très rare venant de Renault, pleurer de rage et de colère parce qu'il avait pas pu pouvoir s'exprimer pleinement. Et aujourd'hui, j'ai peur que les conditions ne soient pas encore optimales pour lui. Elles le seront pareil pour les autres, hein, mais Renault cherche une performance et cherche à de nouveau retrouver ses hauteurs qu'il affectionne aux alentours de 6 mètres. Et aujourd'hui, ça va paraître compliqué avec le vent et souhaitons que la pluie ne se mêle pas à la fête pour gâcher la fête.
Comment on explique ce petit trou dans les performances de Renault? Il faut dire qu'il a été performant depuis le début de la saison. Est-ce qu'il n'a pas voulu peut-être trop en faire cette année avec ses tentatives, ce record du monde dont on lui a un peu monté la tête avec ce record du monde à tenter à nouveau de battre? Il a été là quasiment tout le temps depuis le début. Est-ce qu'il n'a pas une période un peu de flottement au niveau des performances? Son pic de forme n'est peut-être plus là en ce moment.
Oui, alors c'est vrai que il nous a donné l'explication de des conditions météo. Bon, ça va un temps, hein, forcément. Il y a un moment où les autres perchistes arrivent à le battre sur le concours comme à Paris ou à Lausanne. Donc c'est recevable, mais jusqu'à une certaine limite. On l'a trouvé quand même émoussé, Renaud Lavillenie. À Paris, notamment, il n'avait pas le jus, le peps sur la course d'élan qu'on lui connaît. À Lausanne, il n'a pas vraiment pu s'exprimer comme il le voulait, mais on sentait un peu touché psychologiquement. Mais il y a une fatigue due aussi, certainement, à la gestion de son extra carrière en dehors de la perche proprement dit, par rapport à toutes les sollicitations, la moto, les sollicitations. Pour vous dire, quelques jours avant le meeting de Paris, une semaine avant le meeting de Paris, il avait reçu une bonne quinzaine de journalistes du monde entier à Clermont-Ferrand. L'I2F, la Fédération Internationale, organise ça avec vraiment les grandes stars de l'athlétisme qui s'y prêtent ou pas. Renault avait accepté de se prêter au jeu pendant 2 jours, à les recevoir à Clermont-Ferrand, leur expliquer sa passion, etc. C'était formidable, hein, pour les 15 journalistes sélectionnés sur le volet. Il leur avait fait une démonstration de moto, donc pareil. 3 jours après, il a fait, parce que vous savez, il continue un documentaire en vue des Jeux Olympiques de Rio avec Cédric Clapiche. Donc avec un tournage notamment sur les monts d'Auvergne avec une perche pour faire des superbes images. Et voilà, plein de sollicitations comme ça, même à Paris, en dehors, il a, par rapport à ses équipementiers, à son équipementier et ses sponsors, il avait quelques petites sollicitations, plus nous, la presse également. Donc ça fait beaucoup, c'est la fatigue, et il va falloir vraiment qu'il apprenne à gérer. Et aujourd'hui, le concours du championnat de France sera très important, parce que si jamais il se prend une claque, j'ai l'impression que là, il va vraiment mettre le pied sur le frein, vraiment d'une façon radicale, par rapport à nous, les médias, pour vraiment s'isoler pour préparer Pékin comme il le faut, parce que ça approche. Ça approche.
Exactement. Ben oui, c'est dans un mois, c'est ça, les championnats du
monde. C'est dans un peu plus d'un mois, c'est du 22 au 30 août. Voilà, il fait encore deux meetings après les France, Monaco et Londres. Et après, ben voilà, il y aura quelques rendez-vous avec la presse, mais à mon avis, ça sera vraiment très, très light.
Ouais, il fera la presse après. Pour l'instant, on a envie qu'il décroche des titres mondiaux. On a tellement l'habitude avec Renault.
C'est le seul en plein air qui lui manque, hein. Ça paraît dingue, mais c'est comme ça. Donc c'est vraiment un titre qui lui tient à cœur. Et franchement, s'il passe encore à côté cette année, ça va être la soupe.
Mais non, ça va le faire. Allez,
non, mais je sais.
On le sait, c'est un grand champion. Merci en tous les cas, Fix. On te retrouve tout à l'heure à partir de 16h15. Et on rappelle donc l'heure de la finale du 100 mètres. Ce sera 18h50.
200 mètres,
excuse-moi, le 100 mètres c'était hier soir, mais nous aurons les mêmes acteurs, à savoir Jimmy Vico et Christophe Lemaître, qui vont donc se livrer une revanche tout à l'heure dans le 200 à 18h50. Merci Fix, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
14h37, la MotoGP, le Grand Prix d'Allemagne. Benoît Boutron, où en est-on?
Et à 4 tours de l'arrivée, c'est toujours Marc Marquez qui est en tête, qui semble s'envoler vers une deuxième victoire pour lui cette saison. Le duel, c'est pour la deuxième place entre Dani Pedrosa et Valentino Rossi. Pour l'instant, Pedrosa est devant, mais Rossi, juste derrière, donc ça va être le duel de cette fin de course. Marquez bien parti pour remporter ce Grand Prix d'Allemagne.
À tout à l'heure, Benoît, il est 14h37, vous êtes sur RMC, l'intégral tour. Là, pour l'instant, c'est l'intégral sport. L'intégral tour, ce sera tout à l'heure, dans 25 minutes, avec le départ de cette 9e étape, donc au départ de Vannes, en direction de Plumelec, contre la montre par équipe. Première équipe, Orica Greenedge à 15h. La dernière, ce sera la formation BMC, qui s'élancera à 16h45. Chris Froome va-t-il conserver son maillot jaune? Ou alors, TJ Van Garderen, qui est 3e au général, va-t-il pouvoir s'emparer de la précieuse tunique de leader de ce Tour de France? C'est tout l'intérêt de cette 9e étape du Tour. Dans un instant, nous partons à Wimbledon retrouver Eric Salio, parce que là aussi nous sommes à 20 minutes du grand moment, la finale de Wimbledon entre Roger Federer et Novak Djokovic. À tout de suite.
RMC Intégral Tour, Christophe Cessieux.
14h41 sur RMC. Le Tour de France, ce sera dans 20 minutes maintenant, avec le départ de la première équipe de ce contre-la-montre par équipe entre Vannes et Plumelec. 28 km à parcourir. Ensuite, tout le monde prendra l'avion direction Pau pour la journée de repos, et avant la montagne à partir de mardi avec les étapes pyrénéennes. Puis, un peu plus tard, les étapes dans les Alpes. Nous allons partir pour Wimbledon dans un instant, mais auparavant, la fin du Grand Prix d'Allemagne MotoGP. Benoît Boutron, qui va l'emporter en Allemagne aujourd'hui?
C'est terminé à l'instant, il vient de passer la ligne d'arrivée, Marc Marquez, l'Espagnol, champion du monde en titre, qui remporte donc ce Grand Prix d'Allemagne. C'est simplement sa deuxième victoire cette saison. Il n'avait plus gagné depuis le 19 avril et le Grand Prix d'Argentine, deuxième. Dani Pedrosa, qui a réussi à maintenir Valentino Rossi derrière lui. Rossi qui reste leader au classement général puisqu'il termine troisième, devant son dauphin Jorge Lorenzo, qui lui finit quatrième. Donc pour résumer, Marquez en tête devant Pedrosa et Rossi, Lorenzo quatrième.
Merci Benoît, merci donc victoire de Marc Marquez, qui retrouve des couleurs. Mais c'est vrai que le championnat du monde de MotoGP est très très disputé cette année. À noter que Zarco, je crois, a pris la deuxième place tout à l'heure en Moto2. 14h43, les départs, pas le départ de l'étape, départ pour Wimbledon. On traverse la Manche et on va rejoindre Eric Salio.
RMC Wimbledon 2015.
Pour la finale, alors c'est vrai qu'on a un peu de regret, on aurait bien aimé avoir un Richard Gasquet en finale aujourd'hui à Wimbledon, mais face à face cet après-midi, deux monstres de la planète tennis, à savoir Novak Djokovic, numéro 1 mondial, double vainqueur à Wimbledon me semble-t-il, et puis un certain Roger Federer qui est un petit nouveau dans le métier et qui va viser tout simplement, je crois, le record absolu en Grand Chelem s'il remporte cette finale. Eric Salio est avec nous, salut Eric.
Good afternoon Christophe.
Good afternoon. Ah là, cet après-midi, c'est encore plus chic que d'habitude à Wimbledon, j'imagine, pour la finale. Est-ce que la famille royale est présente? Est-ce que
décris-nous l'ambiance et l'atmosphère. Composition de la, oui, le duc de Kent sera là. Mais je pense pas que la reine mère ne vient pas. Pas pour une finale. Je crois qu'elle était venue pour Andy Murray, si je me souviens bien, mais non, là,
le problème, c'est qu'Andy Murray n'est pas là aujourd'hui.
Sur la liste protocolaire qu'on nous fournit tous les matins. C'est toujours impressionnant d'ailleurs de voir les noms. Ouais. Mais tu parlais de Richard Gasquet, mais oui, on pouvait pas rêver plus belle affiche, parce que c'est le numéro 1, c'est le numéro 2, et puis il y a une rivalité entre ces deux joueurs qui est terrible, même si ça n'est que la troisième finale commune entre les deux. Il y a eu une finale à l'US Open et puis la finale de l'an dernier. Mais Federer, à son âge, chasse encore les records. Et c'est ça qui est bluffant, parce qu'il est donc, il vise un 18e majeur, un 8e titre ici à Wimbledon, donc il serait tout seul.
Eric, je suis obligé de t'interrompre quelques instants, puisque on va parler avec un autre Britannique qui n'est pas à Wimbledon cet après-midi, mais qui est ici sur les routes du Tour. On revient vers toi dans un instant, puisque je crois que Georges Quirino se trouve avec le manager de la formation Sky, David Braceford. C'est ça, Georges?
Exactement, j'ai Christophe, juste... oui, avec Dave Braceford qui est à côté de moi, le patron du maillot jaune. Bonjour, Dave.
Bonjour.
On est en direct sur RMC, Dave. Bon, c'est une première semaine du Tour de France qui va s'achever là pour vous aujourd'hui. On a l'impression que tout a souri à Christopher Froome, que qu'il semble très serein après cette première semaine. C'est le cas?
C'est vrai qu'on a passé une très bonne première semaine, plein hasard, plein chute, mais et plein pavé aussi. Mais on a tout évité, on a bien passé. Alors il y a aujourd'hui là le contre-la-montre par équipe, et puis on va aux montagnes.
Vous avez le sentiment qu'il a quand même envoyé un message important à ses adversaires sur cette première semaine?
Oui, je pense que c'est vrai que tout le monde parle qu'il est fort, il marche bien, il est toujours devant. Bon, il n'y a pas de grand écart maintenant, mais je pense qu'il ne pourra pas passer une semaine. Je pense qu'il est composé. Ça se dit, non, en français? Ouais. Oui, oui. Ouais, composé. Voilà, c'est le mot que j'ai lu très souvent.
Christophe, il t'entend, hein, ouais, si tu veux lui poser une question.
Dave, ouais, un petit mot. Évidemment, les tours se suivent, ne se ressemblent pas forcément, parce que l'année dernière, on se souvient de la mésaventure qui était arrivée à Chris. Est-ce que vous le trouvez plus fort qu'il y a deux ans avant d'attaquer la montagne? Parce que c'est vrai que là, c'est quand même un tour avec les quatre plus grands champions de la planète cyclisme en ce moment, et il écrase pour l'instant la concurrence. Est-ce que vous le trouvez plus fort qu'il y a deux ans?
Je pense que mentalement, il est différent. Je pense que la première fois qu'il a essayé de gagner le maillot jaune, c'était assez intense. Mais là, maintenant, le fait qu'il a gagné, il a eu une année difficile, il est revenu, il est plus calme, il est bien dans son pot. Je pense mentalement, il a mûri peut-être, mais là, je pense que c'est là la différence, plutôt que physiquement.
Comment est-ce que vous l'attendez sur la montagne? C'est vrai qu'on se rappelle il y a deux ans Nairo Quintana notamment qui l'avait, on va dire qui était à son niveau. Vous le sentez fort comme il y a deux ans sur la montagne?
C'est difficile à dire maintenant parce qu'on n'a pas vraiment vu Nairo, Alberto et Vincenzo dans la montagne, et TJ Van Garderen aussi il faut dire, et Thibaut Pinot aussi. Hein. Mais je pense que nous cette année on a essayé de vraiment cibler sur la troisième semaine, de pas arriver à 100% la première semaine et puis et essayer d'améliorer la condition pendant la course pour être frais et puissant dans la troisième semaine. Si ça marche comme ça, ça va aller, quoi.
Donc, en fait, vous nous dites qu'il n'est pas à 100% là en ce moment, et pourtant il est déjà meilleur que les autres, Dave.
Non, je ne veux pas dire ça, mais je veux dire que ça, c'était le plan, quoi.
Christophe. Fred Adam a une question à poser à Dave.
Oui, bonjour, Dave.
Bonjour,
Dave. Petite question qui fâche, comme souvent en ce qui me concerne. On avait parlé au Dauphiné du bus, du mobilhome Sky.
Ouais, ouais. On a beaucoup parlé d'ailleurs.
Oui, oui, beaucoup, beaucoup trop peut-être à ton goût. ASO a dit non, l'UCI a dit non, mais le mobilhome Sky est bel et bien sur le Tour de France. Mmh. Est-ce qu'il sert? Est-ce qu'il accueille des coureurs? Est-ce qu'il accueille des membres du staff? Est-ce qu'il n'y a qu'un mobilhome? Est-ce qu'il y a deux mobilhomes? Dis-moi tout.
Oui, oui, oui. C'est une bonne question. En fait, le base de toute cette pensée, en fait, c'est nous, on commence toujours avec qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la performance d'un coureur. Et quand on regarde, bon, ils changent d'hôtel souvent, ils font leur valise, ils ouvrent leur valise, on ne sait pas exactement ce qu'on va trouver comme lit, le matelas, etc. Alors, on sait que le Tour de France, le dormir, c'est hyper important pour la récupération. Alors, on a fait une étude pour regarder ce qu'on peut faire pour essayer d'améliorer, faire une petite différence dans ce côté-là. Alors, on a créé un assez grand projet, en fait, avec la technologie qui existe maintenant dans les véhicules, les motorhomes, c'est quand même étonnant ce que les possibilités. Alors pour le Giro, on a dit bon, peut-être quand même il faut faire un petit trial, un essai avant qu'on investisse trop. ce qu'on a fait avec Ricci dans le Giro, mais on n'attendait pas quand même la réaction qu'on a eue. Alors, lui aussi a quand même fait une réaction plus vite que jamais. J'ai jamais vu une telle vitesse dans l'UCI. Mais bon, ils ont décidé que les motorhomes c'était hors jeu pour les coureurs. Alors bon, je comprends, mais on a emmené quand même les motorhomes. Pourquoi? Parce que l'allocation des chambres par la SO, deux coureurs partagent une chambre. Et dans l'hôtel qu'on a, on a fait l'étude, petite étude, et il y a trois ou quatre hôtels où il n'y a pas d'acclimatation. Alors, ce qu'on a décidé de faire, c'est de mettre les staffs dans le motorhome pour essayer de vider un peu les chambres qu'on a. Comme ça, les coureurs peuvent avoir une chambre chacun pour être plus tranquille et j'espère dormir mieux et récupérer mieux. C'est seulement un petit pas, mais c'est en fait c'est il y a un grand projet derrière pour essayer de moderniser un peu le sport, parce que là on voit des opportunités pas seulement pour les coureurs, mais quand on vient dans le Tour de France, il y a les fans et les sporteurs qui viennent dans la course, mais s'ils viennent dans l'hôtel le soir, c'est difficile d'avoir qu'ils voient les coureurs, il y a un contact. Alors pourquoi pas avoir un fan zone dans le même endroit où on peut dire peut-être, je sais pas, 20h, 30h, jusqu'à 21h, Chris et les coureurs vont être là, ils vont signer les trucs, un peu de contact, un peu plus moderne, quoi, un peu plus un sport de l'avenir, quoi.
Dave Braceford, qui est une machine à idées, hein, qui vous a permis, Dave, de remporter le Tour de France, de décrocher un nombre de médailles d'or incroyable aux Jeux Olympiques. Et oui, c'est vrai que de temps en temps, ils font un peu des poussières et tout ça. Vous savez que vous avez quand même vexé les hôteliers français, hein, qui n'étaient pas contents. Et alors, du coup, vous dormez dans le motorhome, vous. Vous avez grand luxe, alors, hein?
Oui, moi, oui. Le mien, il faut dire. C'est mon propre motorhome, c'est à moi, c'est rien à voir l'équipe, personne, c'est à moi, quoi.
Vous avez l'impression que c'est difficile de révolutionner le cyclisme un peu, Dave, que dès que vous changez quelque chose, les tenues, les vélos, à chaque fois on vous fait des remarques, c'est difficile de révolutionner le vélo?
Je pense que dans tous les domaines, moi j'aime bien l'innovation. Ça m'intéresse, j'essaie de faire ça, et c'est clair que il y a des gens qui aiment ça et qui veulent changer, mais hein, c'est sûr que les gens qui, si t'es pas bon pour Eddy Merckx, ça va pas, quoi. Ouais.
Dave, dernière question. Vous savez qu'à la finale de Wimbledon, dans un instant, qui va débuter en même temps que l'étape, les Britanniques vont être partagés cet après-midi. Il faut regarder la finale ou il faut regarder l'étape du Tour? Qu'est-ce que vous leur conseilleriez?
Oh, je pense que maintenant que Murray n'est plus là, c'est toujours 100%.
Merci Dave Braceford, merci d'être venu au micro d'RMC.
Merci beaucoup.
Bonne étape et à très bientôt. Dave Braceford, donc le manager de la formation Sky, l'homme qui a fait gagner Bradley Wiggins, l'homme qui a fait gagner Chris Froome, l'homme qui a fait gagner tous les pistards britanniques également, et qui a révolutionné le vélo dans son pays. La révolution en matière de tennis. Donc tu as entendu Eric, hein, les Britanniques vont devoir regarder le Tour plus Wimbledon. C'est vrai que pour les Anglais, le fait que Murray ne soit pas là, du coup ça perd un peu de son excitation cette finale, non?
Ah oui, bien sûr. Non, parce qu'on se souvient tous de la finale Murray-Djokovic qui avait été extraordinaire. Moi, ça reste un de mes meilleurs souvenirs ici dans la cabine. Mais là, ça peut être aussi un feu d'artifice, parce que les deux sont au sommet de leur forme. Et il va falloir que Djokovic soit vraiment très vigilant, parce que ce Federer-là, à 33 ans et des poussières, il est capable d'aller chercher un nouveau titre 3 ans après le dernier. D'ailleurs, à propos d'écouter Roger Federer, savoir comment il aborde cette finale. Est-ce qu'il pense au record ou s'il se focalise uniquement sur le jeu, rien que le jeu?
Juste la victoire même, la rivalité, pour moi ça c'est tellement pas important. Après, si c'est le 8e ou le 18e, franchement ici, en tout, forcément c'est très sympa, mais c'est vraiment juste avoir cette sensation de la victoire ici à Wimbledon sur le gazon, en fait. Et c'est pour ça que je joue au tennis toujours, et je suis content que je me suis donné cette occasion là maintenant, dimanche.
Voilà. Ce serait la 18e
se donner l'occasion. C'est une formule qu'il utilise souvent. Ouais. Et de toute façon, on sent bien qu'il peut pas rester sur un échec. La dernière victoire, on l'a dit, c'était 2012. Ça fait 3 ans. C'est beaucoup trop pour un garçon comme Federer. Et là, il va tout donner. Il va tout donner pour essayer d'aller chercher le Graal.
Eh oui, le Graal. Mais enfin, il y en a un autre qui veut le conserver. Ce Graal, c'est Novak Djokovic, vainqueur en Australie en début de saison, dans le premier tournoi du Grand Chelem, battu, on le rappelle, en finale à Roland-Garros il y a de cela un mois. Et puis là, c'est la troisième. Donc là, pour basculer du bon côté, il faut une victoire cet après-midi face à Federer. Hein,
mais voilà,
pour autrement le bilan ne serait pas bon, finalement.
Mais pour lui. Il ne peut pas se permettre de perdre cette finale parce qu'il resterait sur deux échecs consécutifs. Et d'ailleurs, son bilan dans les finales de Grand Chelem, il est à l'équilibre. Hein. Il est à 8 victoires et 8 défaites. C'est pas très bon pour un numéro 1 mondial. Et d'ailleurs, on va peut-être écouter Guy Forget parce que lui, il est là sur le site parce qu'il participe au tournoi des légendes. Et donc, il n'a rien raté des quarts et des demi. Et je trouve que son analyse est très judicieuse. Guy Forget.
Oui, c'est vrai que chaque année, on entend dire, oui, bon, Roger Federer, c'est un peu plus dur maintenant pour lui cette année. S'il peut gagner encore un tournoi, c'est peut-être Wimbledon. On dit ça l'année dernière. Puis lorsqu'il avait perdu, on dit, alors vraiment, c'est sa dernière chance. Et puis voilà, on est un an plus tard. Et non seulement il est en finale une nouvelle fois, en battant en 3-7 Andy Murray, qui était un des favoris, en tout cas chez les bookmakers. Et sur ce qu'on a vu, on se demande si c'est pas lui le favori cette finale, finalement. Puis il a servi exceptionnellement bien. Il joue mieux que l'année dernière. Et l'année dernière, il a perdu de justesse face à Novak Djokovic, donc c'est peut-être son année ici à Wimbledon. Il va peut-être une nouvelle fois soulever ce trophée et mettre ce record de victoire en Grand Chelem à un niveau inatteignable.
Voilà, Guy Forget sur son pronostic de cette finale à Wimbledon qui va donc débuter dans quelques minutes, Eric, puisque les joueurs sont attendus dans les minutes qui viennent pour l'échauffement et puis la finale qui débutera aux alentours de 15h10, 15h15, c'est ça à peu près ?
C'est ça, les ramasseurs sont déjà sur le court, ensuite ce seront les juges de ligne et puis les deux joueurs à 14h pétantes ici en heure de Londres.
Très bien, on va vivre cette finale avec toi, Djoko Federer, ça ne se rate pas, ça c'est quand même un grand moment, on peut difficilement faire mieux en matière de tennis, et puis on peut difficilement faire mieux en matière de cyclisme, puisqu'on vous le rappelle, nous avons quand même toujours quatre fantastiques dans ce Tour de France, et que le Tour n'est pas joué, même si évidemment on l'a entendu dans la bouche de Dave Brailsford, Chris Froome a vraiment été impressionnant durant la première semaine de ce Tour de France, le sera-t-il également tout à l'heure avec ses équipiers de la formation Sky, dans le contre-la-montre par équipe qui va débuter dans 4 minutes, et bien, nous vous donnerons une réponse si vous restez avec nous, évidemment, puisque nous sommes ensemble jusqu'à 18h pour le direct. Le tennis et évidemment le cyclisme. Départ de la 9e étape, c'est dans 4 minutes sur RMC, la radio de tous les sports. A tout de suite, juste après les infos de 15h pour la finale et pour la 9e étape du Tour de France.